Précisément 6h sur Europe 1.
Étant donné qu'on a à peu près 60% de taxes aussi bien sur le sans-plomb que sur le gazoil, l'impact du prix du brut ne se fait ressentir que sur les 40% de prix hors taxe.
Et ce sera sans doute la mauvaise surprise du jour si vous partez en vacances. Les prix du carburant flambent, 1,43€ le litre de diesel, 1,55€ pour le sans-plomb 95. Dans ce journal, le retour de la production du Doliprane en France dans une usine iséroise. Comment prendre en charge les mineurs isolés toxicomanes? Europe 1 a pu s'infiltrer dans l'unité qui tente de les sauver à l'hôpital Robert Debré à Paris, une unité unique en France. Et puis, pas de poursuite contre la spectatrice à la pancarte du Tour de France, les organisateurs ont retiré leur plainte.
À suivre la page des sports et puis on rendra hommage à Ernest Hemingway, décédé il y a pile 60 ans. Mon invité inattendu nous emmène dans le secret du Harry's Bar, lieu mythique à Paris où l'écrivain avait ses habitudes et aussi ses cocktails. Vous verrez, rendez-vous à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous allez peut-être prendre la route des vacances aujourd'hui. Attention, bison futé, voie orange dans le sens des départs, rouge en Ile-de-France. Mais en plus des potentiels bouchons, il y a un autre élément qui risque de plomber l'ambiance. La halte à la station-service pour faire le plein. Les prix des carburants sont en hausse. Et c'est parti pour durer, Maud Descamps.
Avec le litre de sans-plomb 95 à 1,55€ et celui de gasoil à 1,43€, la facture s'annonce salée si vous vous apprêtez à traverser la France au volant. Sur un Paris-Nantes, par exemple, il vous faudra débourser 5,20€ de plus que l'an dernier à la même période. Sur un Paris-Nice, ce sera 12€ de plus. Pour Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, même si le prix du brut venait à se stabiliser, il n'y aurait pas grande différence à la pompe.
On pourra avoir une stabilisation des prix du brut. Si tel est le cas, à ce moment-là, les prix à la pompe resteront stables. Étant donné qu'on a à peu près 60% de taxes aussi bien sur le sans-plomb que sur le gazoil, l'impact du prix du brut ne se fait ressentir que sur les 40% de prix hors taxe.
Mais la flambée des prix ne devrait pas empêcher les stations-service de faire le plein si les chiffres de fréquentation en mai étaient 15% en dessous des niveaux d'avant-crise. Les propriétaires exploitants de stations-service indépendants disent ressentir un léger frémissement depuis le mois de juin.
Maud Descamps, et en ce jour de départ en vacances, l'inquiétude grandit face au variant Delta du coronavirus qui sévit en France et dans toute l'Europe. Le Portugal rétablit un couvre-feu dans 45 communes à partir d'aujourd'hui, dont Lisbonne, la capitale.
On vous en parlait cette semaine sur Europe 1. La France va recommencer à produire du paracétamol sur son territoire. Ce sera en 2023.
C'était un engagement pris par Emmanuel Macron en juin 2020 en pleine crise sanitaire. Relocaliser la production des principes actifs qui servent dans la fabrication des médicaments de base qui sont actuellement conçus en Chine ou en Inde. L'usine française sera donc construite en Isère, à Roussillon. Jean-Luc Boujon.
La nouvelle unité de production verra le jour quasiment sur le site de l'ancienne usine de paracétamol Rodia, fermée en 2008. Un symbole fort de la volonté française de relocaliser ses productions essentielles. Pour pouvoir concurrencer les pays à bas coût, il a donc fallu une nouvelle approche, explique Gildas Barrère, numéro 2 de Sequence, entreprise française spécialisée dans les principes actifs.
Aujourd'hui, le marché du paracétamol est un marché avec une compétition qui vient essentiellement d'Inde, qui tire les coûts vers le bas. Donc concrètement, le travail a été de proposer des solutions pour avoir une unité plus automatisée qui permet de relocaliser tout en étant compétitif en Europe. C'est une unité de fabrication qui sera capable de produire 10 000 tonnes par an de paracétamol.
Ce qui équivaut à la production d'1 milliard de boîtes par an. Cela permettra de créer 130 emplois directs et indirects. Coût total du projet, 100 millions d'euros, dont le tiers pris en charge par l'État. Preuve qu'il s'agit d'une priorité, explique Sami Sissaïd, sous-préfet à la relance en Isère.
À la sortie de la première vague, il était bien vu le fait qu'il y a beaucoup de médicaments courants dont on devait récupérer la souveraineté en France. C'est ce qui explique cette volonté sur ces secteurs stratégiques, de reprendre complètement une indépendance.
L'usine sera opérationnelle en 2023. Elle fournira les marchés français et européens. Roussillon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
15 heures de perquisition, place Vendôme. Les gendarmes de la section de recherche de Paris ont quitté le ministère de la Justice tard hier soir. Perquisition menée dans le cadre de l'enquête qui vise Éric Dupond-Moretti, soupçonné de conflit d'intérêts entre son action de garde des Sceaux et ses anciennes fonctions d'avocat.
Le verdict est tombé au procès en appel de Willy Bardon. Même condamnation qu'en première instance.
30 ans de réclusion criminelle pour le viol en réunion, l'enlèvement, la séquestration et la mort d'Élodie Kulik en 2002. Lionel Gougelot.
Il avait juré sur les tombes de sa fille et de son épouse que les meurtriers d'Élodie seraient condamnés. Jackie Kulik voit dans cette condamnation de Willy Bardon l'aboutissement d'un long combat pour obtenir justice.
Ça va faire près de 20 ans que j'attendais. Le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Maintenant, ça sera à lui de payer, parce que les quelques années de détention qu'il fera me ramèneront jamais ma fille. Ça, je peux pas l'oublier.
À peine 2 secondes de paroles inintelligibles sur l'enregistrement de l'appel aux pompiers de la victime au moment de son agression, une réputation d'obsédé sexuel et une amitié avec celui qui avait été identifié par ADN plusieurs années après sa mort comme le violeur d'Élodie Kulik. Cela a suffi au juré du Nord pour qu'il se forge une conviction et renvoie Willy Bardon pour 30 ans derrière les barreaux. Ses protestations d'innocence n'y ont rien fait, regrette Gabriel Duménil, l'un de ses avocats.
Ce qu'on peut constater, c'est que l'émotion a pris le pas sur le droit. La cour a été complètement aveugle à toutes les suppliques de la défense. Monsieur Bardon reste combatif. Monsieur Bardon vient de se pourvoir en cassation sur l'intégralité des dispositions de l'arrêt civil et pénal. Le combat continue.
Le verdict rendu, tête basse, le regard vide, Willy Bardon a été embarqué par l'escorte judiciaire pendant que sa compagne au premier rang de la salle s'effondrait en larmes. Doué Lionel Gougelot, Europe 1.
Un document Europe 1 à présent. À l'hôpital Robert Debré à Paris, une cellule a été créée pour prendre en charge les mineurs isolés perdus entre drogue et prostitution.
Une unité unique en France avec une dizaine de soignants rattachés au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui prennent en charge des centaines de mineurs étrangers venus seuls en France, les MNA pour mineurs non accompagnés. Toute une équipe de professionnels les accompagne dans leur insertion. Marion Gauthier a pu les rencontrer pour Europe 1.
Tiens mon grand, tu vas te mettre dans une cabine ?
Le mot maman tatoué partout sur le corps. Le garçon, 18 ans, dont 6 aérés dans les rues, attend une radio des côtes. Il vient à nouveau d'être frappé. Après lui, une jeune fille apparaît les bras zébrés de scarification, 15 ans. Elle avale nerveusement des cachets blancs, ses jambes tremblent, le manque de drogue. Des enfants défilent ici, pris en charge après un séjour aux urgences, souvent pour une overdose ou des plaies ouvertes.
Et ils sont de plus en plus nombreux dans des états de plus en plus terribles.
François-Henri Guillot coordonne l'aide à ces jeunes écorchés, les soins psychologiques, la réinsertion. L'éducateur s'efforce de créer une alliance, comme il dit, avec chacun d'eux.
Plus ils arrivent jeunes, plus ils sont rendus à la vie sauvage. Ils sont en hypervigilance en permanence. Vous claquez vos doigts comme ça, il va se redresser, il va regarder partout. Ce sont des enfants à qui on a volé leur enfance, leur adolescence. Et donc quand nous on les reçoit, c'est déjà leur rendre leur place et leur dire qu'on les voit, qu'on les écoute, qu'ils sont importants.
François-Henri rencontre Ali, 17 ans, qui a fui l'Algérie et la violence d'un père alcoolique avant de noyer ses angoisses dans le Rivotril, un puissant antiépileptique.
On va se voir souvent. La première chose à faire, c'est arrêter le Rivotril. Parce que le Rivotril, tu sais, c'est du poison, c'est la pire des drogues.
Direction le bureau du docteur Emmanuel Perret, psychiatre addictologue et chef de l'unité qui prescrit un autre médicament moins dangereux et dont elle réduira les doses progressivement.
Je me substitue aux réseaux qui les ont mis sous l'emprise des produits en prescrivant des produits qui leur permettent de ne pas être en manque. Et s'ils ne sont pas en manque, ils vont pouvoir se poser dans des structures scolaires.
Et parfois ça marche, comme avec ce garçon arrivé à 14 ans, une balle dans le genou, sorti de la prostitution et de la toxicomanie, aujourd'hui sevré et en CAP plomberie.
On a fait la preuve qu'on pouvait les aider, que c'est pas vain.
Ces jeunes, c'est notre avenir, répète le docteur Perret. Elle espère aujourd'hui développer son unité et l'exporter en France, hors du nord-est parisien.
Un reportage à l'hôpital Robert Debré à Paris, signé Marion Gauthier pour Europe 1. À l'étranger, les incendies continuent de faire rage dans l'ouest du Canada, en proie à une vague de chaleur inédite. 62 nouveaux foyers recensés au cours des dernières 24 heures. Environ 1 000 000 d'habitants ont été évacués dans la région de Vancouver. Et par ailleurs, l'Organisation météorologique mondiale nous apprend que le record de chaleur en Antarctique a été battu l'année dernière. Plus de 18 degrés enregistrés sur la banquise en février 2020.
Le Tour de France, et on vous parlait de cette spectatrice qui avait provoqué une grosse chute au milieu du peloton après avoir brandi une pancarte en plein milieu de la route.
Recherchée pendant 4 jours, arrêtée, puis placée en garde à vue. Et finalement, les poursuites engagées contre elle par les organisateurs de la Grande Boucle ont été abandonnées. Et le directeur du Tour, Christian Prudhomme, appelle au calme.
Il faut clairement faire retomber la pression. Cette histoire prend des proportions folles, insensées, ça n'a vraiment plus de sens. Donc cette dame a fait une bêtise, elle n'a pas fait attention. Nous, ce que nous voulons, c'est répéter qu'il faut faire attention pour que la fête du Tour de France reste la fête du Tour de France. Quand on vient en famille, on tient les enfants par la main. Quand on est en groupe, on est tous du même côté de la route. On ne sacrifie pas tout pour une photo. Voilà. Mais voilà, faisons retomber la pression, calmons-nous. La dame s'est présentée spontanément à la gendarmerie. Maintenant, il faut rester calme, tranquille. Et ça ira mieux pour tout le monde.
Voilà l'appel à l'apaisement de Christian Prudhomme sur le Tour de France avec Axel May. On va reparler du Tour de France côté sportif avec Lénaïque Monnier dans le journal des sports dans quelques secondes.
Et puis qui s'envolera pour la stratosphère en premier? La course à l'espace entre milliardaires est lancée. Alors que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, devait être le pionnier en partant le 20 juillet, le Britannique Richard Branson l'a coiffé au poteau, annonçant hier qu'il prévoyait un vol dès le 11 juillet à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic. En revanche, Jeff Bezos comptera parmi ses passagers une invitation d'exception, une dame de 82 ans, rien que ça, qui deviendra donc la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l'espace.
Et elle a une histoire incroyable, cette dame qu'on racontait tout à l'heure dans le pressing, puisque c'est elle-même une ancienne astronaute, mais qui n'avait pas eu la chance de pouvoir décoller à l'époque. Merci, c'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, 6h10. Le journal des sports avec Lénaïque Monnier. Et avant de parler du Tour de France, les quarts de finale de l'Euro qui débutent ce soir.
Oui, on s'était préparé à avoir un petit France-Espagne pour bien débuter le week-end. Mais non, ce sont bien les Suisses qui ouvrent les débats contre la Roja. Le match se joue à 18h. Belle soirée de foot en perspective avec Belgique-Italie dans la foulée. Et pendant ce temps, les Français, eux, sont passés à autre chose. Ils sont pratiquement tous en vacances. À l'image de Kylian Mbappé, qui a été très critiqué après son pénalty raté et qui a d'ores et déjà fait savoir au PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat après 2022. Autant de petits ingrédients qui fuitent dans la presse et qui font dire à notre consultant Marc Libra que le joueur devrait faire un peu profil bas en ce moment.
La plupart des Français, je ne dis pas qu'on n'aime pas Mbappé, son attitude de plus en plus arrogante énerve de plus en plus. Ça ne va pas arranger la chose. C'est sûr et certain que ça ne va pas arranger la chose parce qu'il est toujours très sûr de lui, il sait tenir des conférences de presse, il sait tout faire, il est très fort. Et malheureusement, dans l'Euro, c'est 8 tirs ratés, il n'a pas marqué un but. Quand Benzema sort, il joue avec personne. Enfin, tout ça, il faut s'en rappeler. C'est le caractère du joueur et on n'est pas prêt en France à accepter ce genre de choses, malheureusement.
Marc Libra, consultant foot pour Europe 1.
La Suisse qui bat la France, c'est en foot, mais c'est aussi en tennis.
Voilà, c'est vraiment pas une surprise, hein. Contrairement au foot, Roger Federer a battu Richard Gasquet hier à Wimbledon pour la 19e fois en 21 confrontations. Victoire en 3 manches pour le Suisse qui prend ses marques et qu'on écoute.
Je trouve que j'avais quand même un peu de marge. Le plus de temps tu passes sur le même terrain avec les mêmes balles, le mieux tu joues. Alors c'est pour ça qu'on joue toujours le meilleur tennis en deuxième semaine d'un grand chelem et pas au début. Mais aujourd'hui, c'était déjà très bien pour un deuxième tour. Quand tu vois à quel point beaucoup ont aussi la peine au premier et deuxième tour, je peux être, en fait, pour finir très très content avec la performance d'aujourd'hui.
Roger Federer avec Corinne Boulou, avec l'élimination de Gasquet. C'est simple, il n'y a plus de Français. À Wimbledon, Monfils, Chardy, Cornet, tous balayés dès le deuxième tour.
Le Tour de France à présent et le peloton va avaler des kilomètres aujourd'hui.
C'est l'étape la plus longue de cette édition. Elle est construite comme une classique, près de 250 kilomètres et une belle difficulté à 18 kilomètres de l'arrivée. Écoutez ce qu'en pense Guillaume Martin, le coureur de l'équipe Cofidis.
Je pense que le final sera déjà assez dur. C'est aussi l'étape la plus longue du tour. Et peut-être la première où une échappée a vraiment des chances. Donc le scénario est assez incertain. Est-ce que l'échappée va aller au bout? Est-ce que ça va ressembler à une classique avec de la bagarre dans le final, avec des punchers comme Alaphilippe ou Van Der Poel? Ça va dépendre beaucoup du début de course, mais moi je m'attends à une belle bataille en tout cas, et s'il y a une opportunité pour moi ou pour un de mes coéquipiers, on essaiera de la saisir.
Guillaume Martin avec Axel May, c'est une étape taillée donc pour les baroudeurs. Hier, Mark Cavendish a signé sa 32e victoire sur le Tour, plus que deux, et le cave britannique égalera le record du cannibale Eddy Merckx.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier, il est 6h14 sur Europe 1.
Europe 1.
Et on va rendre hommage à Ernest Hemingway, 60 ans jour pour jour après sa disparition le 2 juillet 1961. L'hommage ce matin et les souvenirs de mon invité inattendu. Bonjour.
Bonjour Sébastien, je suis Isabelle McKellon et je suis propriétaire du Harris Bar à Paris.
Bonjour Isabelle McKellon, ce Harris Bar à Paris, lieu emblématique, lieu mythique, plein d'histoires, lieu indissociable de la vie d'Hemingway qui avait ses habitudes au comptoir, qui avait même quelques cocktails bien à lui. Vous allez nous raconter tout cela et quelques anecdotes puisque le bar appartient à votre famille depuis 1923 quand même. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h16 sur Europe 1. Mon invité inattendu est donc la propriétaire du Harris Bar à Paris, dans le 2e arrondissement. Invité sur Europe 1 ce matin pour rendre hommage à Ernest Hemingway, disparu il y a 60 ans, et qui avait donc ses habitudes à votre comptoir, Isabelle McElhone.
Absolument, il y avait ses habitudes et il faisait partie de la famille, il faisait partie du clan McElhone parce qu'il était venu dès 1918 quand il était ambulancier pour la Croix-Rouge et puis il était revenu ensuite très régulièrement, notamment quand il était installé à Paris en 1922 et il s'était lié d'amitié avec Harry et faisait partie vraiment de la famille, venait chez les McElhone à Saint-Cloud et faisait vraiment partie de la famille, comme ensuite a fait partie de la famille son fils et ses petites filles.
Harry, donc du Harris Bar, Harry McElhone, c'est votre grand-père, c'est lui qui a repris ce bar dans les années 20.
Absolument, c'est lui qui a créé le Harris Bar et qui avait repris le bar, qui avait été monté de toutes pièces grâce à de l'acajou qui avait été mis sur un bateau de New York jusqu'au Havre pour arriver ensuite rue de nous, par un jockey américain qui voulait, à la suite de sa carrière épique, ouvrir un bar à Paris parce que les cocktails, la culture cocktail lui manquait terriblement parce qu'à l'époque, en France et à Paris, il n'y avait pas de cocktail. On avait un vermouth et c'est tout ce qu'on pouvait avoir dans la sophistication des cocktails.
C'est donc ça qui plaisait à Ernest Hemingway, c'est pour ça qu'il venait, c'était devenu un peu le repère des Américains de Paris.
Absolument, parce que le Harris était, comme vous dites, le repère des Américains, le repère également de la littérature, donc c'était incontournable pour un Américain qui était un des plus grands écrivains de sa génération, et qui, en plus, comme tout le monde le sait quand même, savait apprécier les bons cocktails.
Les bons cocktails, et notamment un en particulier, dont on dit, alors je ne sais pas si c'est une légende et vous allez nous répondre, on dit que c'est lui qui l'a inventé, Ernest Hemingway, le Bloody Mary. C'est vrai ça ?
Non, c'est pas vrai. Alors, comme vous dites, Sébastien, il y a eu énormément de légendes. Moi, je me tiens aux faits. Et en fait, c'est en 1921 que ça a été créé, ce cocktail, par un barman du nom de Fernand Petiot, bien Fernand, hein, pas l'autre, et il l'a créé au Harris Bar, et ensuite il l'a un peu sophistiqué quand il est parti ensuite aux États-Unis et à New York au Saint-Régis, mais ça n'a rien à voir avec Ernest, mais qu'il aimait beaucoup quand même,
qu'il
c'est pas
beaucoup.
Parce qu'il ne l'avait pas créé qu'il ne l'appréciait pas.
Alors vous connaissez très bien l'histoire de votre bar parce que vous avez même écrit un livre sur le centenaire du Harris Bar. Quelles anecdotes vous avez recueillies justement sur la présence d'Ernest Hemingway ?
Oh, écoutez, d'abord on a créé un cocktail parce qu'il était diabétique, Ernest. Et donc on a créé le Hemingway Special. En fait c'est un daiquiri sans sucre avec du pamplemousse, du citron vert, du marasquin et du rhum. Et c'était sa boisson. Bon, il faisait quelques écarts et il pouvait quelquefois prendre d'autres choses. Mais en tout cas, c'était la boisson qu'on avait créée en son honneur et pour sa santé, puisque nous ne voulions pas que son diabète s'aggrave.
Vous le vendez toujours, ce cocktail ?
Ah ben bien sûr, pour ceux qui le connaissent.
Quelles autres histoires vous avez recueillies ? Alors on dit qu'il s'installait toujours au bar, au comptoir.
Alors toujours au bar, il avait d'ailleurs son tabouret sur lequel Harry avait fait mettre une petite plaque avec son prénom
ah,
et son nom. Harry était devenu tellement ami avec lui que Harry l'accompagnait au match de boxe que Hemingway faisait notamment à Montmartre où il y avait des combats de boxe et il demandait toujours à Harry de venir avec lui peut-être pour le réconforter ensuite avec un petit cocktail qu'il aurait amené dans sa besace. Mais c'était vraiment devenu son ami et d'ailleurs j'ai la chance d'avoir un certain nombre de ses ouvrages dédicacés à Duncan McElhone. Et ça, je veux dire que pour moi, c'est vraiment précieux parce que c'était une dédicace personnelle, hein, puisque il était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment comme un membre de la famille. Et notamment son roman qui s'appelle « Le soleil se lève aussi » ou « Fiesta » ou « The sun also rises » qui parle d'un journaliste américain à Paris. Eh bien, parle du Harris Bar, pas que du Harris Bar, parce que nous n'avions pas le monopole de ses visites, mais enfin, il parle du Harris Bar. Et
on
et
retrouve
pour lui,
le Harris Bar
général.
dans les romans d'Hemingway. Merci à vous, Isabelle McElhone, d'être passée nous voir ce matin pour nous raconter ces quelques histoires. Hemingway disparu donc il y a 60 ans. Le Harris Bar, évidemment, est toujours là, à côté de l'Opéra à Paris. Et votre livre aux éditions de La Martinière, sur le centenaire du Harris Bar depuis 1911. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Rien,
bon
et nous venons d'ouvrir à Cannes.
Ah bah voilà. À bientôt, merci.
À bientôt, Europe 1.
Sébastien Krebs. 6h21 sur Europe 1. L'actualité ce matin est la marche arrière du Portugal face à la menace du variant Delta. Le couvre-feu est rétabli à partir d'aujourd'hui dans 45 villes du pays, dont Lisbonne et Porto. Et justement, l'Organisation mondiale de la santé alerte à la veille des brassages de touristes au sein de l'Europe. Le risque d'une nouvelle vague est réel. L'OMS s'attend à ce que ce variant Delta soit dominant sur le vieux continent d'ici au mois d'août. Et puis l'ultimatum du Conseil d'État au gouvernement en matière de climat. La France a 9 mois pour prendre toutes les mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Europe 1. 6h22. Un invité surprise dans le studio d'Europe 1. Bonjour Mathieu Béliard.
Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour Obline.
Bonjour Mathieu.
Je vous dérange en pleine préparation du
7-9. Ah ouais, j'ai cru qu'il y avait un problème.
Moi. Non, Sébastien, non, t'appelles non, le studio. Ouais, fallait venir, Non, parce qu'on s'est dit avec Omblin, vous connaissez Omblin ? Omblin Roche, enchanté. Mathieu Béliard. Voilà. On s'est dit que la partition allait vous intéresser particulièrement ce matin. La partition avec du rock ce matin, Omblin. Des guitares lourdes, des rythmes précis et appuyés.
Oui, une pépite qui émerge sur la scène hexagonale à la fin des années 2000. Les premiers morceaux suffisent à faire taire les mauvaises langues. Qui dit que le rock made in France était mort ? Qui a dit ça ? Certainement pas Dynamo Code.
Wow. Do you care if I tell you I feel sorry? Nous sommes en 2006. À Paris, 5 garçons, les cheveux longs pour certains, biberonnés à Rage Against the Machine et aux Foo Fighters, branchent leur guitare et se mettent à faire du rock.
Dynamo Code, Daiko, c'est du stoner rock, ce rock underground aux influences métal, avec ses rythmiques hypnotiques et répétitives. Tom est à la batterie, Coco à la basse, Vince et Zoran aux guitares et la voix. Eh bien, c'est celle qui nous accompagne le matin sur Europe 1 entre 7h et 9h. C'est la vôtre, Mathieu. Elle monte, hein, cette voix.
Ouais, ouais.
Elle montait.
Elle se déchire en fort.
La voix donc de Mathieu Béliard et de son groupe donc Dynamo Code, qui chante donc en anglais, qui se produit dans des bars et sur les scènes parisiennes.
Et il se murmure à la sortie des concerts, ça fait du bien de tomber sur un truc qui transpire la maturité et qui déborde de testostérone. Vous avez toujours voulu être une rockstar, Mathieu. Un rocker, les orteils à l'air, toujours les pieds nus lorsque vous jouez. Et parlons des lunettes de soleil, une paire différente à chaque concert, la plus belle sans doute. Les mêmes que celles du rappeur Kanye West, les lunettes blanches qu'il porte dans son clip Stronger en 2007.
Ça m'a coûté super cher.
Il paraît, vous n'avez pas pu résister.
Et là, vous imaginez Mathieu Béliard, pieds nus sur scène, avec ses lunettes de Kanye West. On est le 14 juin 2008, première étape majeure donc, dans la carrière de Dynamo Code.
Après être passé par le Capitol Studio, la Boule Noire, le Trabendo, c'est la finale du tremplin à la Cigale, le Fallon Fest. Vous vous classez quatrième au vote du jury, mais premier au vote du public.
Ouais, pas mal, hein, le groupe brille, performe sur scène. Et alors, l'album,
il arrive. Eh bien, oui, direction le studio du réalisateur Léo Grandperret, le sexy studio de Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. C'est la naissance d'un disque autoproduit. The Burglary sort en février 2010, 2 ans après ce cambriolage électrique. Vous revenez avec des titres acoustiques et vous annoncez cette nouvelle sortie sur Europe 1 le 22 janvier 2012 dans l'émission Rendez-vous à l'hôtel de Michel Field et Mathieu. Vous vous montrez plutôt philosophe. Une crise du disque ? Une opportunité ?
Dans l'ascendant, un truc un petit peu nouveau. Une nouvelle manière de consommer la musique. Elle se vit, la musique, en concert surtout. Et après, les morceaux, si on peut les dispatcher, je ne sais même pas si la forme qu'on connaît d'album aura encore un sens dans 10-20 ans. Si on peut sortir un morceau par semaine, moi je prends, je signe tout de suite. Et chaque fois, les feuilles mortes
te rappellent à mon souvenir. Et donc vous découvrez à l'époque, Mathieu, qu'on peut acheter juste un titre d'album. Ça vous fascine.
J'avais jamais réécouté, c'était mon premier passage sur Europe 1.
22 janvier 2012, c'était un samedi soir. Alors il n'y aura finalement peut-être pas un titre par semaine, mais au moins les 9 pistes de The Burg Larry. Et ici, votre plus beau texte m'a-t-on chuchoté à l'oreille.
Le groupe s'appelle Dynamo Code et vous retrouvez bien sûr cet album de Burg Larry avec la voix de Mathieu Béliard. On avait envie de vous faire,
ça me fait vraiment plaisir.
De vous faire découvrir, de faire découvrir aux vieux, auditeurs mais... le passé de rockstar de Mathieu Béliard ce matin et de réécouter ses titres. Franchement, c'est
c'était
bien.
C'était il y a 10 ans, donc bien avant que je n'arrive à Europe 1, mais je vais quand même saluer Vincent Thévenet, qui est réalisateur du 18-20 et que vous entendez à la guitare et sur les chœurs.
Et que je remercie particulièrement.
Et accessoirement, quand même, au son, Boris Pacinski, voilà, qui est le réalisateur de En balade avec. Voilà, j'ai retrouvé des copains en arrivant ici il y a 3 ans.
C'est ça, il y a une team Europe 1 autour de cet album.
Et merci également à Laetitia Casanova, Sylvaine Denis, les archives d'Europe 1 qui ont exhumé votre passage au micro de Michel Field.
Merci beaucoup, Sébastien
en 2012.
J'ai ma partition, ça c'est la consécration.
Et j'embrasse Vincent qui a été d'une grande aide, une grande source.
J'attends.
On en parlera.
À tout à l'heure, Mathieu, pour le 7-9. Merci beaucoup, Omblin, pour tous ces moments en musique tout au long de la saison. La partition sera là tout l'été.
Oui, bien sûr, elle sera là tout l'été, tous les matins. Merci beaucoup à vous, Sébastien. Merci à Fabrice Lafitte, qui a été réalisateur et qui m'a beaucoup aidé. Et aussi à Benoît Valentin, la discothèque d'Europe 1, qui aussi a été une précieuse.
Merci à vous. 6h29, on va retrouver Laurent Cabrol pour la météo encore mitigée de ce vendredi.
Oh là 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 là, moi je suis sur les fesses. Qu'est-ce qu'ils chantent bien, mais c'est ahurissant.
C'est impressionnant.
C'est ahurissant, non mais c'est des pros, c'est des pros. Il n'aurait pas dû venir dans le journalisme. Bon.
Il y a peut-être de la pluie après ça, non.
Moi j'en étais à G7Nord, j'avais fait un groupe, ça s'appelait le Trio Tournesol. Tu parles trop, j'entends du soir au matin. Les mêmes.
Mais oui, vous avez eu aussi votre groupe de rock, Laurent Cabrol.
Oh non, je suis époustouflé. Alors tiens, je m'en remets pas. Et le ciel est couvert aujourd'hui, il restera couvert. Et nous avons, je croyais avoir beaucoup de soleil, il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura simplement un ciel voilé, mais d'un temps sec et surtout des températures qui vont grimper un peu. 23 à Caen, 24 à Rennes, 25 à Nice, 26 à Paris, 28 à Bordeaux, 29 à Lyon, 33 à Carcassonne. Vous voyez que ce sont des températures estivales pour la plupart, mais dans un ciel qui s'annonçait quand même très, très, très dégagé et qui le sera beaucoup moins qu'on l'espérait. Voilà.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal sur Europe 1. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
6h30.
Ça démarre tardivement, mais c'est un départ rapide. Les gens se sont décidés à la dernière minute. Beaucoup de Français, mais il y a aussi la Hollande qui repart fort.
Les Hollandais sont de retour au camping. Les Français et les Allemands avec eux signent que des vacances à peu près normales sont sur le point de démarrer. Explosion des ventes de voitures hybrides rechargeables. Leur part de marché a plus que doublé en un an. Et puis là aussi, une évolution frappante. Les Français, notamment les plus âgés, se sont convertis aux outils numériques depuis 15 mois, bien plus vite que les années précédentes.
Après le journal, des jobs d'été en pagaille. Les professionnels du tourisme recrutent même en dernière minute. C'est une bouffée d'oxygène pour les étudiants qui, pour beaucoup, n'ont pas pu travailler cette année. Tous les conseils dans 10 minutes avec Étienne Gless du magazine L'Étudiant.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a vérifié, nous sommes bien le 2 juillet, premier vendredi de ce mois estival, synonyme des premiers départs en vacances. Et que ce soit pour raisons sanitaires, pour la simplicité ou pour le budget, nombreux sont les Français, 83% à avoir choisi de rester en France pour leur congé. On s'attend donc à une saison record. C'est ce que Frédéric Michel est allé vérifier pour Europe 1 dans un camping de Saint-Raphaël.
Estelle Caravanine, Jessica, bonjour. Ce serait pour quelle date ?
Enfin, le téléphone n'arrête pas de sonner dans cet établissement familial implanté depuis 45 ans, au cœur de l'Estérel, à 5 minutes de la mer. On a retrouvé le sourire après une année très difficile. Les réservations pleuvent. Sabine Suppens.
Ça démarre tardivement, mais c'est un départ rapide. Les gens se sont décidés à la dernière minute. Beaucoup de Français. Mais il y a aussi la Hollande qui repart fort. Les Allemands aussi.
Ça va, tout va bien ?
À quelques heures de l'arrivée des premiers vacanciers de juillet, Aurore Laroche, la directrice de ce camping haut de gamme, veille à ce que tout soit prêt.
Là, l'équipe d'animation qui est juste là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ?
Les affiches.
Les affiches. On se prépare. Ça y est, ce week-end, nous allons être quasiment complets. Nous avons 495 emplacements. On a eu pendant des mois pas un coup de téléphone, pas une réservation. En fait, il y a eu réellement un déclenchement des réservations à partir du moment où le président de la République nous a donné l'espoir et la réouverture sur les vacances.
Prêt à démarrer la saison, les professionnels du tourisme craignent qu'une seule chose désormais, que le variant indien vienne gâcher l'été.
Un reportage dans le Var de Frédéric Michel.
Et nombreux sont ceux qui vont prendre leur voiture pour ces vacances d'été. Le parc automobile français est d'ailleurs en plein renouvellement.
Oui, du fait des aides massives mises en place il y a un an, au premier déconfinement. Depuis hier, certaines primes ont un peu baissé. Le bonus pour l'achat d'une voiture électrique est passé par exemple de 7 000 à 6 000 euros. Et on va faire le point avec vous, Aurélien Fleureau. Vous êtes le spécialiste transport d'Europe 1. Quel impact ont eu ces aides qui visaient notamment à faire baisser le nombre de diesels ?
Alors la grande nouveauté depuis un an, c'est l'explosion des ventes de voitures hybrides rechargeables. À peine 3% des ventes lors du premier semestre 2020 et désormais près de 8%. Électrique et thermique, c'est le véhicule de transition. En attendant notamment que le réseau de bornes de recharge soit réellement efficace, l'attrait pour ces nouvelles motorisations, c'est une tendance de fond, explique François Roudier, porte-parole du CCFA, le comité des constructeurs français.
On voit que maintenant, on a vraiment changer complètement de monde. Et si on prend tout électrique, hybride rechargeable ou hybride non rechargeable, on arrive sur 6 mois à des chiffres qui dépassent le diesel. C'est-à-dire que la deuxième source de motorisation en France, après l'essence, c'est le véhicule électrifié.
À noter tout de même un léger ralentissement ces derniers mois sur le 100% électrique. Les bonus ne font pas tout. Et puis la prime à la conversion, qui a très bien marché l'été dernier, a quasiment disparu des radars, souligne Lorraine Morard, analyste automobile au cabinet IHS Markit.
Les Français avaient déjà pour la plupart remplacé les véhicules qui étaient éligibles. Et donc voilà, se sont un petit peu précipités quand ils ont vu ces nouveaux montants d'aide. Après, ça a été beaucoup plus calme, notamment parce que les montants étaient moins importants. Et là, ça va encore s'accélérer puisque les diesels ne sont même plus éligibles maintenant. On ne pourra plus remplacer son ancienne voiture par un diesel.
Enfin, un constat positif sur un an, le taux de CO2 émis par le parc automobile français est passé de 132 à 107 grammes en moyenne, un plus bas historique atteint au mois de juin.
Dossier signé Aurélien Fleureau.
Là aussi, la crise sanitaire a bouleversé les usages et on le mesure en chiffres. Notre vie numérique a bien changé.
Pour preuve, le baromètre du numérique, c'est une étude réalisée chaque année. Les derniers résultats ont été publiés il y a quelques heures, Clément Le Saffre.
Et oui, avec les confinements, la société a fait un bond en termes de numérisation. 92% des Français utilisent désormais Internet. 4 points de plus en un an. C'est la plus forte hausse depuis 2012. L'augmentation est remarquable chez les plus âgés. 93% des 60-69 ans surfent sur le web. 12 points de plus en un an. Mais cette démocratisation à marche forcée risque d'exclure encore plus ceux qui n'ont ni smartphone ni ordinateur. Ils représentent encore 10% de la population. Comme le rappelle le secrétaire d'État au numérique, Cédric O.
Il y a une accélération de la numérisation de la société. Il y a une accélération des usages numériques. Mais par effet de contraste, ceux qui ne sont pas montés à bord sont encore plus loin du reste de la population. Et donc, il y a un effet d'éloignement, le bateau s'éloigne. Si vous n'avez pas pris le bateau, ben, vous restez à quai.
Et au-delà de la problématique de l'exclusion, il faut aussi accompagner les nouveaux usages de ceux qui ont du mal avec les technologies. Un Français sur trois déclare éprouver des difficultés avec le numérique, que ce soit à cause d'un matériel trop vieux, d'un accès à Internet de mauvaise qualité ou tout simplement d'un manque de maîtrise des outils informatiques.
Clément Le Saffre, le symbole est fort, des juges ont perquisitionné le ministère de la Justice. Une vingtaine de gendarmes sont restés dans les locaux de la place Vendôme à Paris pendant 15 heures jusqu'à minuit. Le ministre Éric Dupond-Moretti fait l'objet de soupçons de conflits d'intérêts entre son action au gouvernement et ses anciennes fonctions d'avocat.
Le football est qu'à l'affiche, une affiche digne d'une finale presque ce soir à l'Euro. Belgique-Italie.
Oui, c'est pourtant qu'un quart de finale, mais les Belges sont premiers mondiaux au classement FIFA. Ils espèrent remporter enfin un grand trophée, tandis que les Italiens sont en plein renouveau depuis l'arrivée de Roberto Mancini. On peut dire, Jean-François Pérez, que ce sélectionneur ne passe pas inaperçu.
En effet, costume cintré à la coupe irréprochable, silhouette longiligne, mèche savamment entretenue, regard bleu acier aussi perçant qu'enjôleur, Roberto Mancini a déjà gagné haut la main l'euro de l'élégance. Mais le mystère, comme on appelle les entraîneurs en Italie, est évidemment bien plus que ça. En 3 ans, l'ancien coach de Manchester City a révolutionné le jeu traditionnellement restrictif de la squadra en une machine à gagner. Notre consultante Aline Riera ne tarit pas d'éloges.
C'est juste la classe, quoi. C'est la sérénité, c'est... le charisme, voilà, c'est une équipe qui est à son image. On lui a laissé le temps de travailler sur la durée. Aujourd'hui, cette équipe, pour moi, arrive à maturité, enfin, pour les Italiens.
Après l'humiliation sportive nationale qu'a constitué l'absence de la Coupe du Monde 2018, Mancini a bâti un groupe équilibré où la Juventus n'est plus la seule référence. Des clubs comme Sassuolo ou l'Atalanta, magnifiques écoles de foot, apportent également leur talent et sa marche. 31 matchs que l'Italie n'a plus connu la défaite, record national. Et test ultime ce soir pour Verratti et les siens face à la Belgique, actuel numéro 1 mondial au classement FIFA.
C'est à 21h avec vous, Jean-François Pérez, en direct et en intégralité sur Europe 1. L'autre quart de finale du jour à 18h, Suisse-Espagne.
Merci François Geffrier, c'était le journal, il est 6h38.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et nous sommes le 2 juillet et la saison estivale s'ouvre pour tous les professionnels du tourisme. C'est aussi, et c'est important, le retour des jobs d'été dont on sait qu'ils sont si essentiels pour les étudiants. Bonjour Étienne Gless.
Bonjour Sébastien.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin dans le 5-7. Vous êtes journaliste pour le magazine L'Étudiant. Le mois de juillet commence, il n'est pas trop tard là pour trouver un job saisonnier? Il y a des offres?
Traditionnellement, oui, on dit toujours qu'il faut s'y prendre plutôt au printemps, mais non, il y a énormément d'offres. Cette année est une année un peu spéciale, énormément d'offres en dernière minute. En fait, beaucoup de recruteurs s'y prennent aussi à la dernière minute, c'est lié à la levée très progressive des contraintes sanitaires. Donc il y a un nombre considérable d'annonces là qui commencent depuis le début juillet, qui commencent leur annonce par urgent, as soon as possible, dès que possible, maintenant, notamment dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, et les grandes vacances ont commencé, et ça va du camping de Saint-Cyprien qui cherche encore un réceptionniste ou son limonadier, une station-service d'autoroute qui n'a pas encore trouvé son agent polyvalent, une crêperie à Aix-les-Bains qui a besoin d'un crêpier, un relais château qui cherche un pool boy pour s'occuper des boissons au bord de la piscine. Ça recrute à tour de bras. Des animateurs aussi, on a besoin d'animateurs. Ouais. Voilà, c'est l'économie redémarrée en flèche. Il y a des secteurs pénuriques, donc les jeunes là sont bienvenus, puis ils en ont besoin parce que beaucoup d'étudiants
ont pas eu de job étudiant. C'est ce que j'allais vous dire, c'est une bouffée d'oxygène pour les étudiants qui n'ont pas pu travailler tout au long de l'année, là.
Oui, l'Observatoire de la vie étudiante a mené une étude avec les confinements, les couvre-feux, les secteurs non essentiels à l'arrêt. C'est 240 euros en moyenne par mois à manque à gagner pour les étudiants qui travaillent et 40% des étudiants en France ont un job à côté de leurs études.
Il y en aura encore plus cette année ?
Écoutez, moi je pense que oui, parce que quand on voit à quel le besoin de redémarrer l'économie, et à quel point déjà ça a redémarré, regardez en plus dans un secteur comme l'hôtellerie-restauration, qui était déjà un secteur pénurique où il y a un turnover considérable avant la crise, et là, en plus, il y a 100 000 personnes qui ont quitté le métier ou les métiers de l'hôtellerie-restauration. Même les débutants sont acceptés, même des très très jeunes peuvent prendre un job de serveur. Vous savez qu'on peut travailler dès l'âge de 16 ans, même s'il faut l'autorisation des parents, puis certains métiers ne sont pas accessibles. Mais oui, oui, il y a énormément de possibilités.
Beaucoup d'offres, et vous le disiez, pénurie. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à entendre que les restaurateurs ne trouvent pas suffisamment de candidats depuis le déconfinement. Toutes ces offres qui s'empilent, elles trouvent preneur aujourd'hui ?
Ben non, non, pas toujours, pas toujours. C'est bien le drame. Il y a certains restaurants qui limitent la jauge, alors que là, ils vont bientôt pouvoir l'utiliser à 100%, qui limitent la jauge ou les horaires d'ouverture parce qu'ils n'ont pas le personnel. Donc les commis de cuisine, les plongeurs, les réceptionnistes, voilà, ce sont toujours les bienvenus. Et c'est là où les jeunes ont une carte à jouer parce que, faute de trouver un candidat expérimenté, on va donner sa chance à un jeune débutant. Voilà, ça c'est possible. Les jeunes peuvent penser aussi à des secteurs comme l'agriculture, le tourisme ou mettre en avant leurs compétences s'ils ont un diplôme dans l'animation, par exemple. Ouais.
Donc ça veut dire que là, c'est le moment. Il faut postuler. C'est maintenant que ça se passe.
Ah oui, oui. Là, il faut répondre aux offres rapidement. Oui, parce que quand même, là, honnêtement, il faut faire vite. Si vous êtes branché agriculture, les travaux saisonniers, on peut anticiper. On peut se donner un mois et se dire, bon, ben là, je prends mes vacances en juillet, puis j'aurai un job, je sais pas, du 15 août au 15 septembre avant de reprendre la fac pour aller récolter, je sais pas, les pommes en Anjou ou aller participer aux premières vendanges fin août pendant 15 jours. Les travaux des champs aussi sont des emplois physiques. Attention, on est au grand air. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui ont travaillé à 100% en distanciel, qui ont vraiment besoin de lever le nez des écrans. Et voilà, les jobs d'été, c'est aussi le charme de boulot, peut-être physique, mais au moins, on est vraiment avec des collègues. On n'est pas derrière des écrans. Voilà.
Et en extérieur. Alors, quelle est la meilleure méthode pour trouver les offres ? Vers quel site, vers quelle plateforme on peut se tourner ?
Ah bah écoutez, moi, bon, l'étudiant.fr, évidemment, puisque nous sommes aussi un job board. Il y avait à peu près 250 annonces pour un millier de postes hier matin sur le site l'étudiant.fr. Non, sinon, sérieusement, vous allez aussi sur le site de Pôle emploi, vous trouverez beaucoup d'offres. Sur le site du CIDJ, le Centre d'information et de documentation de la jeunesse. Sur le site gouvernemental Un jeune, une solution, en cochant la case saisonnier, je crois, on peut trouver aussi beaucoup d'offres. Il y a des bourses d'emploi spécialisées, l'agriculturerecrute.fr pour me trouver un job dans les travaux agricoles et suivre un petit peu en fonction des saisons et en fonction des régions, vous pouvez trouver des offres. Dans l'animation, Job Anime, voilà, c'est. Et puis, il y a peut-être des offres réservées spécialement aux étudiants, mais qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur sur la plateforme Job Avise, qui est gérée par. C'est les CROUS, en fait, voilà. Et là, mais il faut vraiment être étudiant inscrit dans l'enseignement supérieur pour bénéficier d'offres exclusives qui leur sont réservées.
On comprend que les professionnels ont besoin de recruter. Est-ce que, du coup, les rémunérations vont être supérieur. Est-ce qu'on peut demander un peu mieux que ce qu'on avait d'habitude ? Est-ce qu'on peut demander mieux que le SMIC ?
C'est difficile parce que le principe du job, c'est quand même un emploi, la plupart du temps, non qualifié. Donc, au-delà du SMIC, ça va être très, très difficile. Mais ensuite, quand on a des compétences, on peut les valoriser. Je ne sais pas si, par exemple, on manque de surveillants de baignade sur les plages. Hein. Il faut un BN, un brevet national de secourisme et de sauveteur aquatique. Et là, si vous avez ce diplôme, là, vous pouvez négocier parce que il y a vraiment peu de candidats. Voilà, un moniteur de canoë kayak, faut un BPGEPS. Voilà, donc là aussi, vous pouvez exiger un petit peu plus. Mais je regardais des offres. Le bon plan pour les jeunes, c'est de trouver peut-être un job qui soit nourri-logé. Parce que là, vous serez peut-être payé au SMIC, mais vous touchez 100%. Vous n'avez pas le problème de vous loger dans un camping ou dans un petit hôtel pas loin de votre job. Et là, ça peut être sympa. Il y a pas mal d'offres qui proposent ça. Voilà, essayez de négocier des avantages en nature. Vous voyez, le gîte et le couvert, par exemple, ou un loyer très modeste qui vous permet.
Et oui, parce que se loger dans les lieux touristiques peut être effectivement coûteux dans ce cadre-là si on n'a pas de solution. Et puis alors, je voyais qu'il y a des emplois qui sont apparus en lien avec la crise sanitaire. Il y a des nouveaux jobs d'été là, cet été.
Eh bien, écoutez, oui, on a des offres d'agents en centre de vaccination saisonnier Covid. Le job, par exemple, il va falloir orienter les personnes, gérer les listes d'attente, traiter les dossiers, gérer la prise de rendez-vous sur Doctolib, désinfecter les surfaces. Et effectivement, les centres de vaccination vont suivre un peu la grande transhumance des vacanciers sur les plages ou à la montagne. Donc il y a des centres de vaccination saisonnière à Arcachon, je sais pas, Chamonix, là où il y a des postes qui se créent, voilà, par exemple.
Il y a des nouveaux jobs d'été, en tout cas, il y a beaucoup d'offres en ce moment. C'est le moment de postuler. Merci à vous pour ces précisions, Étienne Gleiss. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine L'Étudiant. Merci à vous, bonne journée.
Merci Sébastien, bonne journée. Europe 1.
Il est 7h moins le quart sur Europe 1. Restez avec nous, le 5-7 continue. L'innovation du jour à suivre avec Anissa Mbida.
Europe 1. Sébastien Krebs.
6h47 sur Europe 1. 130 pays, dont la Suisse et la Chine, sont tombés d'accord pour une taxation des sociétés à 15% minimum. Cela devrait notamment permettre d'imposer les géants du numérique de façon plus équitable. Mais l'Irlande ou encore la Hongrie n'ont pas signé cette déclaration. La France n'en fait pas assez pour respecter ses engagements contre le changement climatique. C'est le Conseil d'État qui le dit et qui somme le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires dans les 9 mois. C'est la commune de Grande-Synthe dans le Nord qui s'estime menacée par la montée du niveau de la mer qui a saisi la justice. Et puis la guéguerre entre milliardaires fans de l'espace. Le Britannique Richard Branson annonce qu'il se rendra dès le 11 juillet dans l'espace à bord du vaisseau de sa société Virgin Galactic. Il va devancer ainsi de quelques jours Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour, alors, tombe à point nommé parce qu'il est désormais obligatoire depuis hier de proposer des éthylotests dans tous les magasins qui vendent de l'alcool. Alors vous avez trouvé une nouvelle génération d'éthylotests qui fonctionne, vous allez nous expliquer comment, avec des écouteurs.
Oui, on ne souffle plus dans le ballon, on met simplement une sorte de casque audio sur la tête. S'il s'allume en vert, bah c'est bon, on est dans les clous. Mais si c'est rouge, bah là, ça sera amende et passage par la cellule de dégrisement. Ce sont des chercheurs de l'université médicale et dentaire de Tokyo au Japon qui ont mis ce système au point. Il va analyser les vapeurs d'alcool qui sont dégagées par la peau tout autour des oreilles et il va arriver à en déduire le taux d'alcool dans le sang aussi bien qu'un éthylotest, avec un énorme avantage, bah c'est qu'on peut pas tricher, faire comme si on n'arrivait pas à souffler. Plus de problème non plus avec ceux qui sont tellement éméchés qu'ils peuvent pas souffler assez fort ou assez longtemps. Là, et ben il suffira de d'écouter quelques notes de musique et on saura si on a trop bu ou pas.
Parce qu'en plus, on aura de la musique.
Bah oui.
Alors moi, je savais pas qu'on émettait des vapeurs d'alcool autour des oreilles.
Partout sur le corps.
Partout sur le corps. Alors pourquoi justement avoir choisi les oreilles et pas, je sais pas, la main, le doigt par exemple?
Parce que justement, c'est les oreilles, c'est l'un des endroits où la peau libère le plus de vapeurs d'alcool, deux fois plus que sur la main par exemple. C'est la peau y est très fine, avec une surface importante. Et les chercheurs estiment même que ce sera beaucoup plus fiable qu'un éthylotest classique, puisque les mesures ne devraient pas devenir complètement délirantes dès qu'on a utilisé du bain de bouche, par exemple, ou un simple pchit à la laine qui ont de l'alcool et qui faussent les mesures.
C'est disponible, on peut déjà en acheter ?
Bientôt, ça sort juste des laboratoires, donc il faudra encore l'industrialiser. En tout cas, moi j'ai hâte que ça arrive, parce que pour le confort, évidemment, mais aussi pour l'aspect écologique, puisqu'il n'y aura plus le petit tube en plastique à usage unique qu'on doit jeter comme aujourd'hui. Mais en attendant, pensez quand même à souffler dans le ballon, et surtout éviter de conduire si vous avez trop bu.
Oui, voilà, on va rappeler les bases. Anissa Mbida, pour toutes ces innovations. Tous les matins, on a regardé le futur avec vous. Pour ses bons et parfois ses moins bons côtés, il faut bien le dire. Merci, à très vite sur Europe 1. Il est 7h10. Et nous ouvrons votre revue de presse internationale avec le réseau des correspondants d'Europe 1 sur tous les continents. On commence ce tour du monde aux États-Unis ce matin. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une à New York ?
Eh bien, les inculpations au sein de la Trump Organization, des procureurs de New York ont inculpé l'entreprise de l'ancien président et son directeur financier de vol qualifié et fraude fiscale, explique le Washington Post. C'est le résultat de plusieurs années d'enquête sur les affaires de Donald Trump, souligne le Wall Street Journal. Le directeur financier de l'entreprise, Alan Weisselberg, aurait dissimulé aux services fiscaux l'équivalent d'$1,7 million d'avantages en nature, comme des voitures ou des appartements à Manhattan. Ces accusations sont un test de loyauté pour cet homme, un soldat de l'ancien président, estime le New York Times. Il risque plus de 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. Le journal rappelle que Donald Trump n'a pas été personnellement inculpé et les avocats de l'entreprise dénoncent de leur côté une enquête politique. Pourtant, selon Politico, il s'agit bien d'une inculpation de Donald Trump, car l'ancien président n'a jamais fait de distinction entre lui-même et la compagnie qui l'a rendu célèbre.
Alexis Guilleux, à New York, pour Europe 1, direction l'Italie. Maintenant, bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour.
Quels sont les gros titres à Rome ?
Alors ici, on parle de la nouvelle allocation familiale qui vient d'entrer en vigueur. Face à la crise démographique en Italie, analyse l'Inchiesta, le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle mesure. Première étape, explique le Corriere, jusqu'au 31 décembre, une allocation de plus de 160 euros par enfant est versée à certaines catégories. Les foyers aux plus bas revenus, mais aussi, comme le précise la Repubblica, les parents au chômage ou les travailleurs indépendants jusqu'ici exclus de ces aides, soit 2 millions de familles italiennes. C'est la répétition générale avant le vrai lancement de la la nouvelle politique familiale, d'après Il Fatto Quotidiano. À partir du 1er janvier 2022, cette allocation deviendra en effet unique et universelle, une première en Italie. Le Corriere rapporte qu'il n'y aura plus que cette seule aide à la place d'une jungle de primes à la naissance et de bonus pour la crèche. Une réforme italienne enfin efficace, estime le Giornale, pour faire remonter le pire taux de natalité d'Europe.
Blandine Hugonnet en Italie pour Europe 1. Nous terminons ce tour du monde ce matin en Espagne. Chez vous, Henri Laguérie, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous interpelle dans les journaux espagnols ?
Eh bien, c'est le retour en grâce de la sélection espagnole avant le quart de finale ce soir face à la Suisse. Il y a un vrai regain d'optimisme autour de la Roja, écrit El País. Rêvons, titre Marca. Le ton de la presse a bien changé en quelques jours. Snobé et critiqué au début de l'Euro après deux médiocres matchs nuls. L'équipe entraînée par Luis Enrique a retourné l'opinion en sa faveur, surtout après son incroyable victoire 5-3 face à la Croatie en huitième de finale. Cette équipe avait mal commencé, mais elle grandit chaque jour, s'enthousiasme le journal AS, qui attribue une partie de cette progression au retour du capitaine Sergio Busquets, privé des deux premiers matchs car il avait le Covid. Incompris et très critiqué après n'avoir sélectionné aucun joueur du Real Madrid, Luis Enrique fait taire les mauvaises langues. L'entraîneur est en pleine confiance. Des 8 équipes encore en compétition, il n'y a pas meilleur que l'Espagne, a dit fièrement le sélectionneur espagnol.
Merci Henri de Laguérie à Barcelone pour Europe 1. Europe 1. Il est 6h53, la perquisition a duré 15 heures au ministère de la Justice et c'est un événement notable, le bureau du garde des Sceaux perquisitionné. C'est une nouvelle étape dans l'enquête visant Éric Dupond-Moretti sur des soupçons de conflit d'intérêts. Ce sera la une du journal de 7h. Mathieu Béliard s'installe pour son tout dernier 7-9. C'est dans quelques secondes, à tout de suite sur Europe 1. Il est 6h56 sur Europe 1, je vous souhaite une très belle journée, je vais surtout vous souhaiter un très bel été. C'était donc la dernière de la saison de ce 5-7, ça a été un vrai plaisir de vous réveiller tous les matins avec toute l'équipe qui m'entoure. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je voudrais juste prendre 30 secondes pour remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre de cette matinale tous les jours pour vous proposer le meilleur. Marc Messier, Christophe Charles, Alain Acco pour la rédaction en chef, Manuel Calma, Charlotte Arrigoni, Cédric Lastonnet pour la programmation des invités. Merci à eux pour leur investissement au quotidien. Un grand merci aussi à Fabrice Lafitte, le réalisateur du 5-7. Toujours d'humeur joyeuse, Fabrice Lafitte, même à 3h du matin, c'est précieux ça. De bonne humeur, comme Mathieu Béliard qui est là. Bonjour Mathieu.
Ça va Sébastien?
C'est la dernière du 7-9?
C'est la dernière, bah, c'est oui. La dernière. Non mais c'est avec vous, alors j'ai prévu un petit mot évidemment, et on aura le plaisir de allez, beaucoup rire. Je l'attends d'avance avec Nicolas Canteloup qui sera ici. Vous pourrez le voir en vidéo sur Europe1.fr avant la fin de cette matinale, bien sûr. Mais à travers vous, remercier ceux de la nuit en particulier. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour fabriquer une matinale, que ce soit le 5-7 ou le 7-9. Il y a des gens qui travaillent la journée, des gens qui travaillent le soir, des gens qui travaillent la nuit. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ri. On s'est envoyé beaucoup de photos de bouffe.
On peut le dire. On mange beaucoup la nuit.
On a été confinés, déconfinés. Les équipes ont bougé. Mais vraiment, un mot particulier pour toutes les équipes de la nuit. Pas que les journalistes, ceux qui se lèvent tôt pour vous informer, vous divertir, vous réveiller, vous écouter aussi. Merci Sébastien.
Merci, un grand merci à toi Mathieu pour ton accueil ici à la matinale, pour toute l'énergie que tu apportes dans cette équipe, pour ton sourire, ton talent, ta capacité aussi, c'est le plus important, à valoriser toujours le travail de toute l'équipe et de toute la rédaction. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi, merci pour tout vraiment.
Et valoriser le travail de la rédaction, merci à toi Sébastien, parce que tu as participé à la création de cette matinale un an avant d'y arriver, je tiens aussi à le préciser. Valoriser le travail de la rédaction comme tous les matins, c'est ce qu'on va faire vendredi 2 juillet 2021. Excellent réveil à tous sur Europe 1, le monde a changé et je m'en vais vous le raconter pour la dernière fois, parce que d'abord, au-delà des départs etc, c'est un jour de vacances pour beaucoup, alors on se détend, les beaux jours, l'envie de partir. On est un peu sur la route avec vous ce matin avec, tiens, les conseils du médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed, comment lutter contre la somnolence au volant, c'est vital. Alors nous, en horaire décalé, on en sait quelque chose. Alors on est à la pompe aussi avec vous, vous allez guetter les stations, les prix des carburants qui sont au plus haut, explication dans nos journaux ce matin. Mais alors, si on vous dit de vous détendre, de retrouver la vie normale, est-ce que vous sentez néanmoins le stress des autorités au début de cette saison estival, le variant Delta qui est à la une partout en Europe, hein, pas que chez nous. Alors on vous a parlé cette semaine de l'entrée en vigueur du pass sanitaire européen, on vous a parlé des milliers de jeunes touristes à l'isolement à Majorque. Eh bien le Portugal annonce la mise en place d'un couvre-feu dans une quarantaine de villes, dont Lisbonne. Pourtant le Portugal avait si bien inversé les courbes, le variant Delta semble prendre tout le monde de court. Et on le sait, c'est toujours la même course entre la propagation du virus, dont ce variant est qui est très contagieux, et la vaccination. En France, le ton change. Le Premier ministre écrit au chef des groupes parlementaires une lettre dans laquelle il parle de la possibilité d'un rebond épidémique à la rentrée. Il y parle d'obligation vaccinale, en particulier pour les soignants, d'obligation d'isolement avec sanction. Le détail dans nos journaux ce matin. Voilà quelques-uns des éléments du programme. Il est 6h59 et il est là avec nous, Laurent Cabrol. Bonjour mon cher Laurent.
Ah mon Mathieu, tu vas nous manquer. J'aurais bien aimé t'offrir le soleil du jour là. C'était prévu pour ce vendredi. Il fallait que tu aies du soleil. Eh bien non, il est légèrement voilé. C'est juste pour pas que tu aies la grosse tête, donc ça va. Comme ça, tu seras tranquille. Là, tu as un soleil voilé toute la journée, mais il ne pleuvra pas. C'est la bonne nouvelle du jour pour tous nos amis, tous ceux qui participent à ce, et qui nous écoutent régulièrement. Le soleil du jour sera voilé et il sera présent tout au long de la journée sans qu'il pleuve. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et des températures qui seront très douces dans l'ensemble. J'y reviendrai tout à l'heure, entre 23 et 33 degrés. Il en fera 26 à Paris, 27 à Tours, 28 à Bordeaux, 29 à Lyon, 31 à Marseille, 33 à Carcassonne, 34 à Nîmes et dans le cœur de Mathieu Bélier.
Encore beaucoup plus chaud, grâce à vous Laurent Cabrol. Merci Laurent. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Change.